Credo. Une exploration des fondamentaux de la foi chrétienne avec Monseigneur Battu, évêque auxiliaire de Toulouse.
Il viendra de nouveau juger les vivants et les morts. Il y a deux points saillants dans cet article du Credo. D'abord ce qu'on appelle parfois le retour du Christ et ensuite le jugement. Dans les années 70, on chantait un cantique heureusement tombé dans l'oubli, dont les paroles laissaient entendre que le Christ reviendrait marcher sur nos chemins, un peu comme s'il devait recommencer son périple sur la terre, et pourquoi pas subir de nouveau sa passion. En réalité, la seconde venue du Seigneur n'aura plus rien à voir avec la première, et c'est pour cette raison qu'il n'est pas approprié de parler d'un retour. Le seul point commun est que cette venue se fera sur les nuées, c'est-à-dire à partir des cieux, ainsi que l'annonce, après l'ascension, les deux hommes vêtus de blanc aux disciples qui gardaient les yeux fixés vers le ciel. « Celui qui vous a été enlevé, ce même Jésus, viendra de la même manière dont vous l'avez vu partir vers le ciel. » C'est dans les Actes, chapitre 1, verset 11. Surtout, la seconde venue du Seigneur ne sera plus dans l'humilité, mais dans la gloire. Elle n'aura pas lieu dans le secret, mais au vu et au su de tous. « Alors, dit saint Matthieu, chapitre 24, on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. » C'est Jésus qui parle dans son discours sur la fin des temps. Reconnaissons que la question qui nous préoccupe le plus n'est pas celle de la seconde venue de Jésus, mais bien plutôt celle de notre passage de ce monde vers l'autre. Autrement dit, nous raisonnons comme si, avant cette descente du Christ dont nous ignorons tout, et que nous situons très loin dans le temps, il y avait notre propre voyage vers lui dont nous ne sommes distants que de quelques années et qui nous fait peur car il correspond à notre mort et nous n'aimons pas y penser. Et si les deux événements n'étaient pas si différents et si loin l'un de l'autre? Nous nous trompons peut-être tout à fait en imaginant notre mort comme un départ vers une destination inconnue. Notre mort n'est peut-être pas autre chose que la dimension individuelle, personnelle, de la seconde venue du Christ. Notre mort, plutôt que notre départ, est le moment où le Christ viendra à notre rencontre, comme il viendra à la rencontre de tous à la fin des temps. Notre mort, ce n'est peut-être que la dimension éminemment personnelle d'un événement cosmique qui se produira quand Dieu l'aura décidé. D'ailleurs, la foi utilise pour parler de ces deux aspects le même mot, le mot « jugement ». On précise les choses en parlant de jugement général ou de jugement dernier pour l'ensemble de l'humanité et de jugement particulier pour la rencontre personnelle de chacun avec Dieu au moment de sa mort. Le catéchisme de l'Église catholique unit les deux aspects dans un même développement que je vous cite. Le Nouveau Testament parle du jugement principalement dans la perspective de la rencontre finale avec le Christ dans son second avènement, mais il affirme aussi à plusieurs reprises la rétribution immédiate après la mort de chacun en fonction de ses œuvres et de sa foi. Fin de citation. La mort, écrit le frère Jean-Miguel Garrigue, est un rendez-vous entre deux personnes libres. Et il ajoute, je cite, « Le jour où on a compris cela, on est libéré de la peur païenne de la mort comme fatalité. » On peut garder une peur tout à fait normale des souffrances qui la préparent, de la maladie, de l'accident. Mais quand on a compris que l'heure de notre mort est un rendez-vous, je dirais même un rendez-vous d'amour entre Dieu et nous, on s'ouvre au véritable mystère de la mort. Elle est une libre décision de la part de Dieu, même si Dieu passe par des causes secondes et qu'à vues humaines, c'est un concours de circonstances qui nous amène jusqu'au terme de la vie corporelle. En fait, Dieu gouverne ses causes secondes sans les falsifier. Il les connaît dans l'éternel présent de sa transcendance et elles sont dans sa main. Le moment de la mort reste un mystère de libre décision divine et de libre réponse humaine. Fin de citation. L'enjeu de comprendre la mort comme une rencontre, c'est d'abord d'accepter notre mort. Bien loin des revendications des partisans de l'euthanasie qui recherchent de manière pathétique une maîtrise illusoire sur leur mort, il s'agit pour nous d'apprendre à y voir la venue du Seigneur dans notre existence et de nous préparer à lui répondre « Seigneur, me voici, je viens ». Dès lors, la mort apparaît, je ne dirais pas comme quelque chose de naturel, car Dieu n'a pas fait la mort et ne se réjouit pas de la perte des vivants, comme dit le livre de la Sagesse, mais comme le terme de notre vie sur la terre qui ne nous épouvante que parce que nous nous faisons de notre survie une idole. Je cite à nouveau Jean-Miguel Garrigue. Même si tout le monde sait qu'il doit mourir, tout le monde fait comme s'il n'en était rien. Or, poursuit-il, c'est la manière dont nous vivons qui prépare notre mort. L'enjeu de notre vie est de ne pas manquer notre mort. Comme l'a écrit avec beaucoup de sagesse Sœur Jeanne d'Arc, on ne meurt qu'une seule fois dans sa vie, c'est pourquoi on en a peur, on ne sait pas mourir. L'expérience faisant défaut, on risque de manquer sa mort. Mais on peut dire que tout dans la foi, et spécialement la prière, est une préparation à la mort. La première génération chrétienne ne ressentait pas de grande différence entre la venue individuelle du Christ dans la vie de chacun et sa venue cosmique à la fin des temps. En effet, cette génération vivait dans ce qu'on appelle l'attente proche, c'est-à-dire qu'elle considérait la seconde venue du Seigneur comme tout à fait imminente. Et nous en avons la trace dans la première épître aux Thessaloniciens, qui est l'écrit le plus ancien du Nouveau Testament. En conséquence, chacun pensait que parmi ses amis et ses proches, certains seraient tout juste morts et que d'autres vivraient encore quand le Seigneur apparaîtrait. C'est pourquoi saint Paul écrit que, je le cite, « Nous qui serons encore là pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui seront endormis, mais ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront en premier lieu, après quoi, nous qui serons encore là, nous serons réunis à eux et emportés sur les nuées. Ainsi, nous serons avec le Seigneur pour toujours. » 1 Épître aux Thessaloniciens, chapitre 4. Ce que saint Paul annonce là, vous voyez sans panique, c'est vraiment une espérance. Qu'on soit vivant ou mort au dernier jour, on sera réuni à lui et pour toujours avec lui. Et le jugement dans tout cela? L'enjeu du jugement, redisons-le, c'est de savoir si nous accepterons ou non l'amour dont Dieu nous aime, c'est-à-dire de savoir si nous accepterons ou non d'être sauvés. On voit par là le rapport étroit entre l'annonce du jugement et la formule du credo « pour nous et pour notre salut ». Tout ce que le Fils de Dieu a fait pour nous, c'est à nous qu'il appartient de le ratifier. Et il est clair que si nous nous sommes efforcés de le ratifier tout au long de notre vie, le moment de notre mort sera la suite logique de cette orientation fondamentale. Nous nous jetterons dans les bras de Dieu. Le plus grand drame pour un être humain, ce n'est pas de ne pas aimer, c'est de ne pas accepter d'être aimé. On dira bien sûr qu'un tel refus n'est pas possible, mais il n'est pas si sûr que nous acceptions sans réticence au moment de mourir ce que nous aurions refusé pendant toute notre vie. Alors ne différons pas davantage de nous laisser aimer par Dieu. Nous venons de rapprocher le jugement particulier et le jugement dernier qui correspond à la résurrection des vivants et des morts. Il faut aussi rapprocher la résurrection de Jésus et la fin des temps elle-même. Origène, un grand auteur du IIIe siècle, écrit que « dès que le Sauveur fut venu, c'était déjà la fin du monde ». Il veut dire par là que dans le mystère du Christ, tous les moments de l'histoire sont récapitulés. Mais il appartient à notre liberté de faire en sorte que tous les moments de notre histoire personnelle soient eux aussi repris et sauvés par lui. Personne ne pourra le faire à notre place, et cette pensée a quelque chose d'effrayant quand nous songeons à tous les moments gaspillés de notre vie. C'est ici qu'il faut nous rappeler que le jugement n'est que l'envers du secours que Jésus ne cesse de nous accorder et que nous appelons la grâce. Laissons la parole pour finir à celui qui devait devenir le pape Benoît XVI. Il écrit « Au-dessus du jugement se lève naturellement l'aurore de l'espérance. Ce n'est pas seulement le jour de la colère, mais le retour du Seigneur. On pense à la grandiose vision du Christ au début de l'Apocalypse. Le voyant tombe comme mort devant cet être à la puissance redoutable. Mais le Seigneur le touche de sa main et lui dit « Ne crains rien, c'est moi ». Apocalypse 1,17. L'article du jugement, dans le symbole, reprend cette idée pour l'appliquer à notre rencontre avec le juge de l'univers. Le chrétien, en ce jour d'angoisse, pourra constater, avec un étonnement ravi, que celui à qui tout pouvoir a été donné au ciel et sur la terre était dans la foi le compagnon de route de ses jours terrestres. Et c'est comme si maintenant déjà, grâce aux paroles du symbole, du credo, Jésus le touchait de sa main en lui disant « Ne crains rien, c'est moi ». Peut-être ne saurait-on trouver une plus belle réponse au problème du rapport de la grâce et du jugement que cette pensée qui est à l'arrière-plan de notre credo.